sur RFI.
Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LaunchKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Une antenne, vous l'avez constaté, quelque peu perturbée ce jeudi en raison d'un mouvement de grève nationale. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons du dérèglement climatique avec en toile de fond la COP27 qui se tient à Sharm el-Cheikh en Égypte, où l'Afrique tente de peser de tout son poids pour convaincre les pays riches à réduire plus rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les convaincre qu'il faut maintenant mettre la main au portefeuille pour aider le continent à faire face aux effets du changement climatique. Les conséquences du dérèglement du climat sont visibles, inondations, sécheresses, avancées du désert. Vos témoignages évidemment nous intéressent, mais la question qui nous préoccupe ce matin et qui préoccupe la COP27, c'est de savoir si l'Afrique sera bel et bien entendue. Qu'attendez-vous de ce grand rendez-vous, de cette conférence internationale sur le climat? Vos réactions, vos témoignages, 33 9 693 693 70, et comme tous les jours évidemment, nous vous attendons sur nos réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec des questions sur l'opposant tchadien Succès Masra. Bonjour Gabriel.
Bonjour monsieur Juan Gomez, mais aussi à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Et merci de nous appeler de Bukavu, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Après la répression violente des manifestations du jeudi 20 octobre, j'ai appris que le leader de l'opposition tchadienne, Sitié Masra, a quitté le pays. Comment maintenant expliquer le départ soudain de Sitié Masra au Cameroun?
Alors, effectivement, Succès Masra se trouverait au Cameroun, dont la frontière, rappelons-le, est à seulement 5 minutes de N'Djamena, la capitale. Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan, bonjour Gabriel.
Merci d'être avec nous Sébastien, vous êtes l'envoyé spécial de RFI au Tchad. Pourquoi Succès Masra a-t-il quitté le Tchad? Il faut dire que la pression semblait très forte sur l'opposant et sur son parti, les transformateurs.
Oui, c'est vrai. Hein. Dès le départ, Succès Masra a été considéré par le pouvoir comme l'un des principaux, si ce n'est le principal, instigateur de ce que les autorités ont désigné comme une tentative d'insurrection armée pour N'Djamena. Lui et son parti transformateur, ainsi que d'autres organisations, avaient planifié ces violences en formant, en armant, en endoctrinant même leurs militants. Le but était d'entraîner un soulèvement populaire qui aurait abouti à terme à un coup d'État. Le jeune opposant a donc été très tôt et très clairement pointé du doigt par N'Djamena avec un fort risque judiciaire, voire sécuritaire. Donc Succès Masra est vite entré dans la clandestinité. Des diplomates m'ont dit qu'il craignait pour sa vie. Les chancelleries ont demandé au pouvoir de garantir son intégrité physique, qu'il soit arrêté si on lui reprochait quelque chose. Mais beaucoup ont quand même vu un danger, n'excluant pas même un acte isolé de quelqu'un qui aurait décidé en solitaire de s'attaquer, chef des transformateurs. Ouais.
Et dans le même temps, Sébastien Lemaitre, le parti, comme d'autres d'ailleurs, a été interdit d'activité.
Des militants m'ont dit être traqués avec des descentes de police chez eux, des camarades arrêtés, des appels d'inconnus, des menaces, etc. Donc beaucoup sont entrés dans la clandestinité ou ont fui le pays. Tout cela, mis bout à bout, ça a cristallisé beaucoup de pression autour de Succès Masra, qui a choisi finalement la voie la plus rapide, vous l'avez dit, en passant au Cameroun, dont la frontière est à 5 minutes de N'Djamena. Maintenant, on ne sait pas s'il y est toujours ou s'il a poursuivi vers un autre pays.
Ouais. Vous avez d'autres questions, Gabriel?
Oui, effectivement. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi les autorités l'ont-elles laissé partir?
Sébastien Lemaitre, visiblement, les autorités savaient bel et bien que Succès Masra quittait le pays.
De bonnes sources côté pouvoir m'ont dit que les autorités savaient bien qu'il passait la frontière, mais qu'on l'a laissé traverser librement. Alors une hypothèse, c'est qu'on lui aurait permis de partir pour des raisons politiques et sécuritaires. Succès Masra, c'est une des principales figures de l'opposition. L'arrêter, c'est pas anodin. On venait d'avoir 50 morts et 300 blessés. Qui sait comment la rue aurait réagi à son interpellation? Des troubles étaient possibles. Et puis gérer un parti depuis l'étranger, c'est pas facile, surtout dans les conditions actuelles. Possible que ça arrangerait aussi le pouvoir de voir un succès Mastra s'éloigner de Djamena.
À suivre donc. En tout cas, on aura certainement l'occasion d'en parler demain dans la libre antenne avec les auditeurs, puisque le vendredi, vous le savez tous, vous commentez l'actualité de votre choix. On s'excuse pour le réseau téléphone. La liaison n'était pas très très bonne avec Djamena, mais on a compris l'essentiel des explications de Sébastien Nemeth, notre envoyé spécial. Gabriel, je vous souhaite une bonne journée à Bukavu. Rappelez quand vous le souhaitez, bien évidemment. D'autres questions à la rédaction? Tiens, on va parler de l'Éthiopie et la situation après l'accord de paix conclu la semaine dernière. On vous en a beaucoup parlé sur RFI. Accord de paix conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités de la région du Tigré. Bonjour Romuald.
Ouais, bonjour.
Merci de nous appeler d'Abidjan.
Merci à vous.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Alors, la semaine dernière a été paraffé un accord de paix entre Addis Abeba et les rebelles. Ainsi, je voudrais savoir comment expliquer que les combats se poursuivent entre les belligérants malgré l'accord de Pretoria.
Bonne question que vous posez effectivement. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Nairobi, au Kenya, où se poursuivent d'ailleurs les discussions entre les belligérants. Pouvez-vous, Florence Maurice, nous confirmer que les combats se poursuivent?
En réalité, c'est très difficile de le savoir, hein, puisque le Tigré est toujours coupé du monde, pour ainsi dire, et largement privé de télécommunications. Ce qui est vrai, c'est que juste après la signature de l'accord, les Tigréens ont dénoncé une attaque de drones au sud de la capitale du Tigré, Mekele. Mais depuis, il n'y a pas eu de nouvelles accusations. Et c'est, quoi qu'il en soit, sans commune mesure avec ce qu'on observait pendant les discussions de Pretoria, donc avant la signature, lorsque l'armée fédérale éthiopienne a conquis plusieurs villes stratégiques du Tigré à grand renfort d'artillerie et aussi de frappes aériennes. En revanche, des informations continuent de faire état de possibles attaques menées par l'Érythrée tout au nord du Tigré. Des informations qu'il n'est pas possible de vérifier, mais on ne peut pas l'exclure. Des combats ont aussi eu lieu en région Oromo ces derniers jours. Ça montre bien globalement que la guerre n'est pas finie. Ça nous rappelle aussi, Juan, que l'accord de cessation des hostilités qui a été signé à Pretoria n'engage pas toutes les parties au conflit. Il a été signé entre le TPLF et le gouvernement d'Addis Abeba, mais il y a des absents, au moins un grand, l'Érythrée, qui dans ce conflit joue tout de même un rôle clé en apportant une aide décisive à l'armée éthiopienne et dont on peut douter de la volonté de renoncer à ses visées expansionnistes.
En tout cas, c'est important de rappeler à chaque fois que le Tigré est toujours coupé du monde, très difficile de savoir concrètement ce qu'il se passe sur le terrain puisque la région est largement privée de télécommunications. Romuald, vous avez une autre question à poser à Florence Maurice?
Oui, également, je voudrais savoir sur quoi portent désormais les discussions au Kenya entre le gouvernement d'Addis et les rebelles.
Allez, Florence Maurice, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Un accord de paix a été conclu la semaine dernière et pourtant on continue de discuter.
Un accord de cessation des hostilités qui n'est qu'un premier pas vers la paix. Et d'ailleurs, le médiateur en chef, le médiateur de l'Union africaine l'a lui-même reconnu. Alors, cet accord de Pretoria prévoyait que les commandants militaires des deux camps devaient se retrouver au plus tard 5 jours après la signature pour avancer sur sa mise en œuvre. Et c'est donc ça qui se passe actuellement à Nairobi. Les discussions sont menées entre le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes et le commandant des forces du TPLF. Selon l'Union africaine, il est essentiellement question de la question du désarmement du TPLF. Ce n'est pas une mince affaire. Le délai fixé dans le document signé à Pretoria est ambitieux. 30 jours. Or, le bras armé du TPLF compterait plus de 100 000 soldats. Et puis, sur ce point, les discussions pourraient être compliquées par le fait que cet accord ne dit rien sur la présence au Tigré de l'armée érythréenne. Il faut donc avancer sur cette question du désarmement. Selon l'Union africaine, les discussions doivent aussi permettre d'arriver à une feuille de route sur le retour de l'aide humanitaire et des services et télécommunications, puisque sur ce sujet, eh bien, le texte signé à Pretoria est assez flou, hein, pas de précision sur le calendrier, et c'est peu dire qu'il y a de l'impatience hein, sur ce sujet, du retour de l'aide humanitaire notamment. Et puis toujours selon l'Union africaine, il s'agit aussi à Nairobi d'avancer sur la composition d'un panel d'experts qui aura pour mission de vérifier l'application du cessez-le-feu. Mmh.
Mais ça c'est la version officielle, Florence Maurice, on peut penser que ce n'est pas tout.
Oui, parce que bon, cet accord a tout de même surpris hein, de nombreux observateurs qui s'étonnent d'y voir une véritable reddition pour les Tigréens. Cet accord a d'ailleurs suscité quelques critiques, y compris parmi les Tigréens, notamment dans la diaspora. Le négociateur en chef du TPLF, Getachew Reda, s'est montré très silencieux après la signature de cet accord. Puis il a finalement fait une série de tweets assez surprenant pour justifier de l'avoir signé. Bref, cet accord suscite des questions et beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a probablement d'autres types de discussions en cours à Nairobi sans que rien ne filtre hein, puisque c'est à huis clos et que les discussions qui avaient été annoncées d'abord pour 3 jours sont actuellement prolongées.
En tout cas, on en saura plus, notamment grâce à vous Florence Maurice, puisque vous êtes la correspondante permanente de RFI à Nairobi au Kenya où se déroulent justement ces discussions. Romuald, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, merci.
Et bonne journée à Abidjan, dans la capitale ivoirienne. Merci de nous appeler. À très vite, Romuald, 8h21 à Abidjan. Un grand merci à Florence Maurice, notre correspondante à Nairobi. On repasse au standard, mais d'abord, j'accueille avec plaisir Anne-Cécile Bras. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci Anne-Cécile, on s'est permis de vous passer un coup de fil ce matin, vous présenter C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI tous les jeudis et tous les vendredis. On a reçu des questions à l'occasion de la COP27, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Sharm el-Cheikh. On va commencer avec un premier auditeur, Yves à Berlin. Bonjour Yves.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Bonjour, Anne. Et Anne-Cécile vous Merci. Écoute. Quelles sont vos questions Yves?
Ma question, c'est lors de la COP27, Macky Sall, le président de l'Agence de l'Union européenne, a rappelé aux pays du Nord leur promesse de verser la colossale somme.
Alors, Yves, excusez-moi, vous êtes à Berlin, mais le réseau téléphone passe très très mal. Décidément, on a des problèmes ce matin avec les communications téléphoniques. Est-ce que vous avez branché un haut-parleur? Est-ce que vous avez peut-être une oreillette? Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour qu'on vous comprenne bien? Alors là, on a perdu Yves? Bon, on a peut-être perdu Yves. Alors, on va essayer de rétablir la liaison avec Yves dans un instant. Ibrahim est avec nous. Bonjour, Ibrahim. Oui. Soyez le bienvenu.
Oui. Bonjour, RFI. Bonjour à vos millions d'auditeurs.
À Conakry, en Guinée. On vous écoute.
Juan, j'ai une question. Oui. L'Afrique est le continent le plus exposé au changement climatique, alors qu'il est celui qui pollue le moins. Ma question est de savoir pourquoi le continent africain est-il particulièrement vulnérable à ce phénomène ?
C'est une bonne question, Anne-Cécile Bras. Le GIEC l'affirme depuis des années, l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique, alors que l'Afrique contribue à hauteur de 3 ou 4% des émissions de gaz à effet de serre. Anne-Cécile, pourquoi l'Afrique est-elle à ce point vulnérable ?
Alors, c'est vrai que le changement climatique et ses conséquences sont mondiales, mais la répartition de ses effets, elle, est inégale. Les conséquences les plus sévères sont déjà observées dans les pays les plus pauvres en raison de leur exposition géographique. Plus votre pays est situé près de l'équateur, plus les rayons du soleil sont puissants, plus les températures seront extrêmes. Le phénomène de la chaleur humide, par exemple, est assez effrayant. Pour se refroidir, notre corps doit transpirer. Mais au-delà de 35 degrés, si l'air est chargé d'humidité, eh bien votre corps ne peut plus transpirer, il ne se refroidit plus. Et donc, vous mourrez. Vous êtes aussi plus vulnérable quand vous n'avez pas les moyens de construire des infrastructures pour vous adapter aux nouvelles conditions climatiques. Regardez l'exemple des inondations au Tchad en ce moment. Le Chari, l'un des principaux fleuves du pays qui coule à N'Djamena, connaît une crue jamais enregistrée depuis 1961. Dans les quartiers périphériques sud, où la grande majorité de la population ne sait pas nager, on parle d'une hauteur d'eau de plus de 1 mètre. eh bien, la même quantité d'eau coulerait à Paris, la Seine serait canalisée. Dans le dernier rapport du GIEC, vous en parliez, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, les scientifiques expliquent bien que l'évolution des températures moyennes et extrêmes aura des incidences particulièrement néfastes sur le secteur agricole et par voie de conséquence sur les populations autochtones et les communautés locales qui dépendent de l'agriculture et de la pêche, ce qui est le cas de 70% des Africains.
Oui, en tout cas, les différents chefs d'État et dirigeants africains qui sont à Sharm el-Cheikh n'ont de cesse de rappeler que leur continent a besoin de moyens financiers pour les aider à faire face au changement climatique. On va en parler dans un quart d'heure avec vos réactions et vos témoignages et vous continuez évidemment à nous appeler. On me dit que la liaison s'est considérablement améliorée avec Berlin, donc on croise les doigts. Rebonjour Yves.
Bonjour Juan, je m'excuse pour la ligne.
Mais vous n'y êtes pour rien.
On dirait qu'il y a un problème.
Ben, il y a eu un problème, mais ça fonctionne. On vous écoute Yves.
Ok, ma question à Anne, c'est lors de la COP 27, Macky Sall a rappelé aux pays du Nord la promesse de verser la colossale somme de 100 milliards de francs aux pays du Sud.
100 milliards
Alors, je me pose la question de savoir...
100 milliards, non pas de francs CFA, mais de dollars.
De dollars, pardon. Ouais, autant pour moi. 100 milliards de dollars, c'est une colossale somme, donc je me demande, peut-être que Anne peut nous aider, comment et selon quels critères cette colossale somme a été calculée.
Allez, c'est vrai, Anne-Cécile Bras, tous les ans, on nous parle de ces fameux 100 milliards de dollars que les pays riches, les pays du Nord, doivent verser aux pays du Sud pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. Comment cette somme a-t-elle été calculée ?
Alors, le média professionnel AEF a raconté cette histoire. En fait, c'est le premier ministre britannique Gordon Brown qui en a parlé en premier de ces fameux 100 milliards de dollars. C'était en juin 2009, 6 mois avant la 15e conférence des Nations Unies sur le climat qui allait se dérouler à Copenhague. Il espérait alors impulser une dynamique positive en proposant que les pays riches s'engagent à verser des financements climat aux pays du Sud dès 2013, des financements qui iraient croissant pour atteindre la somme de 100 milliards par an à partir de 2020.
Ouais, mais comment Gordon Brown est-il arrivé à ce chiffre, à cette somme de 100 milliards ?
Alors c'est le montant que le très respecté économiste britannique Nicolas Stern avait mentionné dans son livre « Un plan d'action pour une planète plus sûre » publié justement en 2009. Dans la section de cet ouvrage dédié aux éléments clés pour structurer un accord mondial sur le climat, l'économiste chiffrait à 100 milliards par an, soit 0,3% du PIB des pays riches, les financements publics nécessaires pour aider les pays en développement à renforcer leur résistance au changement climatique et à passer à une croissance économique à faible intensité de carbone. Ce chiffre a été repris par tous à la COP 15 à Copenhague et depuis c'est devenu un totem qui ressort à chaque COP, l'emblème de la défiance entre les pays du Sud qui attendent toujours que cette somme soit atteinte et les pays riches qui promettent sans honte qu'ils vont y parvenir.
Oui, Anne-Cécile, en quelques mots avant de redonner la parole à Yves, cet objectif de 100 milliards de dollars par an devait être atteint en 2020. Est-ce que cette somme est réunie aujourd'hui ?
Alors, selon les analyses de l'OCDE, on n'est que seulement à 83 milliards, mais il y a un rapport qui a été publié il y a quelques jours par le Canada et l'Allemagne qui explique que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à mobiliser ces 100 milliards à compter de l'an prochain. Enfin, faut savoir que ces 100 milliards sont majoritairement des prêts et pas des dons, et qu'ils sont très loin en dessous des besoins réels des pays. Et d'ailleurs, ce chiffre de 100 milliards annuels doit être rehaussé normalement à partir de 2025.
Oui, on parle même de 200, 300 milliards annuels à partir de cette date-là. Yves, une dernière question rapidement.
Oui, oui. Voilà, la prochaine question c'est, sait-on comment et exactement cette somme immense serait-il utilisée et répartie parmi les pays du Sud ? Il y a déjà un plan de répartition d'utilisation ?
Anne-Cécile Braham ?
Alors en fait, cet argent est déjà distribué dans les pays. Le rapport de l'OCDE dont je parlais à l'instant détaille la répartition des financements par zone géographique sur la période 2016-2019. L'Asie est la principale région bénéficiaire des financements climatiques avec 43%, loin devant l'Afrique, 26%, l'Amérique du Sud, 9% et l'Océanie, 1%. Et les trois quarts de ces financements sont consacrés à des projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre comme le développement des énergies renouvelables, renouvelables. Seulement un quart servent à financer des projets pour aider les pays à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Et pour l'instant, il n'y a aucun financement pour les dégâts d'ampleur irréparable, comme les inondations au Pakistan ou la disparition des petits États insulaires. Et c'est l'objet du mécanisme des pertes et dommages qui est en discussion actuellement à la COP27.
Merci infiniment, Anne-Cécile Braille. On vous retrouve tout à l'heure à 14h10, temps universel, pour une émission spéciale COP27. Vous serez aux côtés de Laurent.